Ça ne vous aura probablement pas échappé. Les négociations pour la libération des otages avancent notamment, et comme le confirmaient Lise et Blaise dans le journal il y a quelques minutes à peine, eh bien une délégation israélienne se rend à Doha aujourd'hui pour continuer d'essayer d'avancer sur cet épineux dossier. Dossier que nous décryptons avec Daniel Haber. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Comme chaque lundi matin, nous conversons autour de la géopolitique mondiale et plus principalement ces derniers temps et depuis quelques mois maintenant de la géopolitique au Proche-Orient. Alors, les négociations sur un cessez-le-feu et sur le retour des otages avancent. Il y a eu ces rencontres à Paris, au Qatar, il y a aussi eu une rencontre en Égypte. Quelle est votre analyse là-dessus, Daniel Haber?
Ah oui, là, il se passe des choses, mais il faut rappeler le contexte. Israël mène en même temps trois guerres, une guerre militaire, une négociation qui est aussi une forme de guerre diplomatique, si vous voulez, une confrontation diplomatique, une négociation, et une guerre de communication. Guerre de communication, on pourra l'évoquer si on a le temps, mais on pourra en parler plus longuement. Donc aujourd'hui, vous avez à la fois une opération militaire qui était essentiellement à Gaza. On voit bien que les autres théâtres d'opération sont relativement contrôlés par les deux parties. Donc on peut les oublier pour l'instant. L'Iran a décidé de ne pas aller trop loin. Donc on se concentre sur Gaza. Et sur les opérations militaires, maintenant, la concentration de l'opération militaire israélienne se concentre sur Rafah, c'est-à-dire la dernière ville où il y a probablement les chefs du Hamas et les otages. Donc c'est là qu'on en est, sur le plan militaire. Mais il y a en même temps une négociation avec un appel au cessez-le-feu. Et alors, il faut bien comprendre qu'en fait, Israël aujourd'hui mène avec un certain nombre de parties trois négociations en même temps. Il y a cette négociation immédiate sur cessez-le-feu, mais il y a aussi la négociation sur l'avenir de la question palestinienne, qui est rappelée sans cesse, en particulier par les Américains, qui parlent de reconnaître un État palestinien, qui voudrait tout de suite qu'Israël s'engage résolument sur la résolution de la question palestinienne, en même temps qu'on négocie un cessez-le-feu. Il y a une troisième négociation, qui est l'organisation d'un front anti-iranien, Israël, les Arabes sunnites autour de l'Arabie saoudite, donc la reprise des négociations avec l'Arabie saoudite. Et ces trois négociations s'imbriquent. La négociation sur Gaza, Gaza c'est un morceau de la Palestine. La négociation sur la Palestine ne peut se faire finalement que dans le cadre du grand accord avec l'Arabie saoudite. Donc les trois s'imbriquent. Bon, mais aujourd'hui on va parler, si vous voulez, puisque c'est votre question, sur la négociation du cessez-le-feu. Il y a trois questions. Sur le cessez-le-feu, oui, peut-être avant de détailler, dire qu'au fond, ces trois négociations, Israël les mène pas avec ses ennemis, elle les mène à l'intérieur de son propre camp, avec les Américains, avec les Européens, avec les gens, avec les Arabes à qui il a déjà signé la paix, Égypte et Jordanie, et à ceux avec qui ils vont la signer demain, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Vous voyez, c'est une négociation interne plutôt. Le Hamas, il faudra qu'il suive. Et les Palestiniens aussi. Donc vous voyez que c'est une négociation au fond interne. Alors, quels sont les termes de la négociation et quelles sont les incertitudes? Il y en a plusieurs. La première, c'est quand on parle du cessez-le-feu, est-ce qu'on parle d'un cessez-le-feu temporaire ou définitif? Alors, en ce moment, on a l'impression qu'on parle de ce temporaire. On parle de, en fait, on voudrait arriver quelque chose avant le Ramadan. C'est le 10 mars, donc assez vite. Mais en réalité, tout le monde pense déjà au cessez-le-feu définitif, qui n'est pas très loin. Vous avez aussi la deuxième question, qui est les otages. Est-ce que c'est tous les otages qui sont concernés ou on parle maintenant de 40 otages? Donc voilà. Et puis deuxièmement, contre quoi les otages? Est-ce que c'est contre d'autres prisonniers palestiniens qu'on libérerait si c'est un accord temporaire? Mais si on va vers un accord définitif, et au fond, on ne sait pas vraiment, les deux se mélangent, si c'est un accord définitif, qu'est-ce que veulent les dirigeants du Hamas? La vie sauve, vous voyez? Bon. Et en fait, tout ça revient à se poser la question des c'est quoi la fin de l'opération et c'est quoi, au fond, pour Israël, la victoire? C'est ça la vraie question. On parlait d'éradication, on n'en parle plus. Définissons ensemble ce que Israël appellerait une victoire. La victoire sur le Hamas, c'est quelque chose qui est visible, visible aussi bien pour les ennemis d'Israël que pour les futurs amis d'Israël comme l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite ne va pas signer un accord avec Israël si Israël n'est pas fort. Donc il faut qu'Israël remporte une vraie victoire, considérée comme une victoire par les Saoudiens. Oui, c'est très compliqué. Et visible, ça rappelle un peu le départ de Arafat en 1982, qui a quitté le Liban. Donc ça a été la fin du Fatahland, au fond, comme ça serait la fin du Hamasland. Et au fond, Arafat est parti avec un certain nombre de ses troupes. Il s'est sauvé, donc. Et alors finalement, inversement, qu'est-ce que c'est qu'une victoire pour le Hamas? Ou qu'est-ce que c'est? Bon, alors le Hamas, il a perdu la guerre. Il est en opération de survie. Mais les Arabes ont réussi, au cours du temps, à toujours transformer leur défaite en victoire. Rappelez-vous de Nasser, au moment de Suez, il a perdu la guerre de Suez, mais il est revenu en vainqueur. La guerre de 67, une victoire écrasante d'Israël. Nasser a été jamais aussi populaire qu'après 67. Sadat, en 73, a perdu la guerre de 73, mais il est le héros qui a réussi à mettre en déroute pendant quelques jours l'armée israélienne. Et c'est d'ailleurs grâce à cette aura que Sadat a eu comme victorieux alors qu'il avait perdu, qu'il a accepté finalement de signer la paix avec Israël. Vous voyez que, donc, on voit bien que pour le Hamas, c'est qu'est-ce que je peux obtenir qui me permet d'être battu, mais d'apparaître comme ayant sauvé quand même quelque chose. Et c'est ça qui se discute en ce moment. Et vous voyez, c'est ça que je voulais un petit peu préciser, tout en rappelant. Et ça, c'est très important, et le Premier ministre l'a rappelé, on continue à vouloir éliminer complètement le Hamas en s'attaquant à Gaza. Et donc, dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu une réunion du cabinet en Israël, et on aura les résultats probablement ce lundi dans la journée, approuver une attaque sur Rafah. Ce qui d'ailleurs suppose une opération assez longue, puisqu'il faut évacuer un petit peu les gens qui sont tout autour, les Gazaouis qui sont. Donc on voit que tout ça se mélange, qu'il y a encore beaucoup de questions.
Alors justement, Daniel Haber, cette négociation, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un plan sur ce cessez-le-feu et sur la libération des otages. En quoi ce plan est-il cohérent?
Alors en fait, ce plan, c'est cohérent avec ce que vous dites, mais c'est pas un plan sur la négociation d'otages. C'est un plan, c'est qu'est-ce qu'on fait de Gaza après? C'est-à-dire une fois qu'on aura fait ce qu'on appelle un accord final, un cessez-le-feu final, qu'est-ce qu'on fait après? Lui, il a indiqué la couleur. C'est pas une révélation ce qu'il a proposé, parce qu'il le dit depuis le début. Petit 1, Israël doit rester à Gaza encore de nombreux mois. Et au bout de 12 mois, ça fait déjà 1 an et ça peut être plus, parce qu'il faut terminer le travail. Le travail, c'est 1, éliminer tous les terroristes qui se sont cachés dans la population ou qui sont encore cachés dans les tunnels, etc. Ce qui implique aussi de détruire probablement tous les tunnels ou une partie des tunnels pour qu'ils ne servent plus à l'avenir. C'est aussi empêcher un retour de terroristes, c'est-à-dire qu'il faut faire une frontière sud, justement là où il y a Rafah et puis là où il y a ce qu'on appelle la route de Philadelphie, qui est une route de 13 kilomètres à l'intérieur de Gaza et qui longe la frontière avec l'Égypte, et qui est un no man's land et qui permet de contrôler la frontière. On voit bien qu'elle n'était pas contrôlée par les Égyptiens, et Israël dit il faut que je la contrôle, et il a raison. Et donc on voit bien que tout ça va prendre beaucoup de temps. Et donc Israël propose la chose suivante: dans les mois et les années qui viennent, Israël va s'occuper de la sécurité à Gaza. Par contre, l'organisation civile, l'alimentation, la santé, éventuellement une reconstruction de Gaza, enfin bref, tout ce qui concerne la vie quotidienne, ça, que les Palestiniens s'en occupent eux-mêmes. Mais quel Palestinien? Lui, il dit pas l'autorité palestinienne, parce que c'est pas mieux que le Hamas. Mais des Palestiniens, ceux qui sont déjà d'ailleurs à Gaza, qui sont pas du côté du Hamas, ceux qui étaient du côté de l'autorité palestinienne, qui ont été un petit peu, certains ont été tués, mais certains sont encore vivants. Ils ont été maires, ils ont été gestionnaires civils, donc ils sont encore là. On peut les remettre, on peut leur donner de l'aide, etc. extérieure de d'autres Arabes, d'Arabie Saoudite, d'Égypte, voire même l'ONU peut envoyer des experts. Oui, on peut trouver une administration civile, mais nous on garde l'autorisation, l'organisation et de la protection militaire. Et au fond, ce que dit Bibi, c'est on va gérer Gaza comme on gère aujourd'hui la Cisjordanie, c'est-à-dire qu'on n'est pas Il y a une autorité palestinienne, mais il y a des zones A, B et C sur lesquelles on a plus ou moins d'autorité policière. Et là où on est en coordination avec l'autorité palestinienne, on travaille ensemble. Et ben là, on travaillera ensemble, nous, Israéliens, avec les autorités palestiniennes, entre guillemets, qui seront en charge de la vie civile et de la police quotidienne à Gaza. Une cisjordanisation de Gaza, ce qui est, au fond, probablement acceptable. Alors, tout le monde hurle du côté palestinien, mais en fait, c'est tout à fait légitime de le demander, et il est possible que ce soit admis. Au fond, la balle est dans les Américains, qui sont un peu maximalistes, et qui, eux, pensent déjà à la négociation suivante, hein, celle de l'avenir de la question palestinienne, et eux, ils voudraient déjà qu'Israël acte l'idée d'un État palestinien, et pour pousser et pour pressuriser encore plus Bibi, il menace d'une sorte de reconnaissance unilatérale de la Palestine, ce qui est une folie, bien entendu, mais c'est un cadeau fait au terrorisme, aux prises d'otages, etc. Et ça ne se fera pas, je pense, mais vous voyez, c'est ça la pression. Et puis il y a une dernière pression américaine, c'est sur Bibi lui-même. On en a déjà parlé, on essaie de disqualifier l'homme pour au fond réduire ses ambitions, mais les ambitions qu'il annonce pour Israël sont des ambitions qui sont bonnes pour Israël et donc qui sont acceptées par l'ensemble du cabinet de guerre israélien. Donc voilà un petit peu ce qui se joue en ce moment, et les prochains jours vont éclairer tout ce que je dis, et nous le reprendrons ensemble, sans oublier qu'il y a derrière tout ça une guerre de communication très lourde qu'Israël a perdue et sur laquelle elle est en train de se redresser. Il faut regagner le terrain perdu sur la guerre de communication. Ça se fera après le cessez-feu, obligatoirement, après les bombardements, parce que tant qu'on bombarde, on peut rien faire. Mais après, il y aura certainement un rollback absolument indispensable.
Et ça, on y reviendra dans les prochaines semaines, une fois que cette situation autour des négociations se sera peut-être décantée. Ça devrait se passer cette semaine, Daniel Haber. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka et on se retrouve lundi prochain.
D'accord, à la semaine prochaine.